Zambira Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Agatha Kawe. Soyez tous les bienvenus dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, le journal des journaux. Nous reviendrons sur certains événements saillants qui ont marqué la semaine qui vient de s'écouler. Nous aborderons les domaines de la sécurité, la politique et les droits de l'homme, sans oublier la santé et l'éducation. Dans quelques instants, les développements.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Il n'y a pas eu de changement politique au cours des 100 jours du régime d'Évariste Ndayishimiye. C'est ce qui a été conclu par les participants à une conférence organisée ce vendredi par le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Selon Emery Pacifique Igiraneza, son président, le gouvernement d'Évariste Ndayishimiye n'affiche aucune volonté politique pour amener les Burundais autour d'une table de négociation en vue d'une paix durable. Emery Pacifique Igiraneza.
Tous les panélistes étaient d'accord qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé, que c'est une continuation du régime Nkurunziza, si ce n'est pas même beaucoup plus mauvais, surtout concernant le côté politique, côté diplomatie et les droits de l'homme. On remarque qu'il y a toujours des menaces, des gens qui ne sont pas partis du pouvoir. Il y a aussi une augmentation exponentielle des cas de torture. Il y a aussi la sécurité qui va mal, car il y a des groupes armés qui ont attaqué le pays, malgré que le gouvernement n'ait pas encore accepté ce fait. Donc, on a trouvé que, en général, le Burundi va mal. Il est vrai qu'on ne peut pas examiner d'une manière claire le développement des faits dans 100 jours, surtout dans le secteur politique, mais quand même, quand on juge les intentions du gouvernement lors de l'investiture du président jusqu'à maintenant, on peut voir vraiment qu'il n'y a pas cette volonté d'écoute, cette volonté de dialogue, cette volonté de ramener les Burundais autour d'une table pour discuter des problèmes qui sont les leurs.
Et au cours de cette période, environ 200 personnes ont été tuées. Et bien, c'est le bilan de la situation sécuritaire dressée par la Ligue des droits de l'homme ITK. Cette organisation parle d'une situation virée au rouge à la fin du trimestre de la présidence d'Evariste Ndayishimiye. Eddie Claude Ninazwe nous fait le point.
La situation des droits de l'homme enquêtée par la Ligue ITK date du début du mois de juillet. 49 personnes ont été tuées, dont 31 sont des corps sans vie retrouvés ici et là. Le mois d'août a été le plus pire. La Ligue ITK a enregistré 79 personnes tuées, dont 29 sont des corps trouvés sans vie dans les différents coins du pays. Dans ce mois de septembre, dans la première semaine, 42 tués d'après la Ligue ITK. La deuxième semaine, selon ITK toujours, a été marquée par 9 tués, dont 2 cadavres trouvés dans les rues. Et la troisième semaine, ITK a enregistré 7 tués, dont 2 cadavres trouvés dans les rues également. La situation présentée par ITK fait état de 42 personnes tuées seulement dans les affrontements armés dans les différentes provinces. À côté de ces personnes tuées, telles que relevées par la Ligue ITK, il y a d'autres formes de violations de droits de l'homme, notamment les disparitions forcées. Ligue ITK a enquêté 11 cas, tandis que 290 personnes sont victimes des arrestations arbitraires dans cette période de 2 mois et 3 semaines. Les actes de viol basés sur le genre et de torture ne sont pas passés inaperçus à la Ligue ITK. Respectivement, 24 cas et 33 cas ont été enregistrés. La Ligue ITK fait savoir que les catégories des victimes sont des hommes, des femmes et des enfants mineurs.
Merci bien, Eddie Claude Nininahazui. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a menti au Burundi en niant l'existence des groupes rebelles. C'était vendredi au cours de sa première conférence publique. Déclaration de Charles Nditije, président du parti prenant reconnu par le pouvoir de Gitega. Selon cet opposant politique, le fait que le numéro 1 burundais minimise les attaques qui emportent les vies humaines démontre à suffisance le manque de responsabilité de la part des autorités burundaises. Francine Kanyang.
Dans ton cœur, Evariste Ndayishimiye s'exprime sur les attaques signalées dans certaines localités du pays depuis le 23 août dernier. Le président se demande si ceux qui qualifient de simples malfaiteurs savent ce que veut dire attaquer un pays.
Attaquer un pays signifie avoir déjà pris et occupé au moins une portion du territoire. Avez-vous déjà entendu ça? De la même manière, quelqu'un qui attaque un pays commence par le sommet. Comment peut-on déclarer qu'on a attaqué un pays alors qu'on ne s'en est même pas pris au président? Allez vérifier l'heure de mon départ de Kigoma et l'heure de mon arrivée à Bujumbura. Je suis passé par là où ils sont censés être.
Charles Ndjitijet se dit surpris par ces propos. Pour ce président de l'UPRONA non reconnu par le pouvoir, le premier devoir d'un gouvernement responsable est de protéger ses citoyens.
Il oublie que pendant qu'ils étaient au maquis, ils ont fait près de 10 ans et à tuer des gens, mais ils n'ont pas réussi à prendre aucune commune. Des gens sont tués ici et là, dans certaines provinces. D'autres ne dorment pas chez eux la nuit, de peur d'être assassinés. Il y a des arrestations qui s'opèrent au motif que ces gens-là s'associeraient et assez rebelles. Donc, nous comprenons par là que le président Evariste Ndayishimiye a menti au peuple burundais. Et ça montre aussi le manque de responsabilité.
Selon des organisations de défense des droits de l'homme, plus de 40 personnes ont péri dans les attaques signalées dans plusieurs provinces du pays depuis le 23 août dernier, attaques revendiquées par le mouvement Red Tabara.
Et sans transition, le Burundi a toujours besoin d'un mécanisme onusien pour le monitoring des violations des droits de la personne humaine. C'est le souhait exprimé par les organisations internationales des droits de l'homme ce mercredi lors de la 45e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et certains pays qui soutiennent le gouvernement du Burundi dans son refus de renouveler le mandat de la commission, les membres de la commission d'enquête sur le Burundi ont indiqué que ces gouvernements le font par des mobiles purement politiques qui ne tiennent pas compte des conditions des droits de la personne humaine au Burundi. On fait le point avec Réverien Bazikamri.
La 45e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies était consacrée à la présentation finale de la commission d'enquête sur le Burundi. Brièvement, les commissaires ont présenté un bilan inquiétant des violations des droits de l'homme. Cette année, cette situation a été aggravée par un processus électoral qui a occasionné des violences, comme le dit Françoise Rampson, commissaire de la commission d'enquête sur le Burundi.
Nous avons indiqué que non seulement il y a eu cette année beaucoup de violations, en partie dans le processus électoral, mais aussi en dehors de ça, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Les principaux auteurs sont les Imbonerakure, mais aussi la police et la SNR, qui sont aussi des auteurs de violations des droits de l'homme.
Les délégations des pays membres et les organisations internationales des droits de l'homme se sont exprimées. La Fédération internationale des associations chrétiennes pour l'abolition de la torture soutient qu'un mécanisme onusien reste actif au Burundi puisqu'il n'y a pas de changement jusqu'à maintenant. Maria Salfati est représentante de la FIACAT auprès des Nations Unies.
La position de la FIACAT est d'ailleurs une position partagée par de nombreuses autres organisations internationales et nationales de protection des droits humains. On est d'avis que les violations continuent de se perpétrer au Burundi et qu'il y a toujours une impunité qui prévaut. Et comme l'a souligné la commission d'enquête, on ne note pas de changement vraiment de fond sur cette situation qui pourrait réellement améliorer la situation. Et c'est pour ça qu'on est d'avis qu'il est nécessaire qu'un mécanisme international indépendant continue de faire le suivi de la situation des droits humains au Burundi.
L'ambassadeur du Burundi à Genève, Renova Tabou, a rejeté le rapport qu'il qualifie de mensonger jusqu'à le considérer comme un insulte au gouvernement du Burundi. Selon lui, la commission n'a pas raison d'être depuis sa mise en place. Comme certains d'autres pays qui ont soutenu cette idée, la commission d'enquête s'inquiète que ces pays mettent en avant les mobiles politiques sans tenir compte des conditions des droits de l'homme qui pèsent lourd sur le peuple burundais.
Tout ce que je peux dire, c'est que nos rapports décrivent la situation actuelle au Burundi. Les raisons pour lesquelles les pays s'intéressent moins, c'est surtout une question politique et ce n'est pas dans notre mandat.
Pour la suite, les pays de l'Union européenne s'entendent sur une proposition d'une résolution. Cependant, ces pays doivent se mettre d'accord sur deux options. L'une consiste à réouverture de l'Office des droits de l'homme au Burundi, fermé définitivement fin 2018, ou bien le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi.
Et toujours dans le domaine des droits de l'homme, une Burundaise vient d'être nommée secrétaire générale de l'organisation Amnesty International au Canada. Il s'agit bien de Kéti Nyabandi, un défenseur des droits de l'homme. Avant de demander l'asile au Canada, elle avait fait face à la violence policière en tant que principale organisatrice de manifestations pacifiques de femmes pour un changement démocratique au Burundi, qui est initialement dit et fréquemment sollicitée pour être conférencière et modératrice et aborde souvent les droits des femmes, la situation au Burundi et d'autres préoccupations urgentes en matière des droits de l'homme dans beaucoup de séances de plaidoyer. Tétine Gérandi est la première femme noire réfugiée à être nommée à ce poste.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
La suite de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Inzamba à Gatéakawe. Deux discours contradictoires pour le président Evariste Ndayishimiye sur la déclaration des biens des autorités qui commencent leur mandat. Dans la conférence publique de ce vendredi à Gitega, il a précisé que les biens sont en secret pour toute personne. Pourtant, le mois passé, Evariste Ndayishimiye avait demandé aux autorités de déclarer le plus tôt possible leurs biens. Pacifique Ninaze trouve que c'est plutôt un moyen de protéger les biens mal acquis par ces autorités. Parfait Moudassigal.
Après à peine un mois qu'Evariste Ndayishimiye est déclaré à Bouyé dans la province Ngozi que tous les hauts cadres du gouvernement doivent déclarer leurs biens avant de commencer leur mandat et à la fin, le président burundais se réunit ce vendredi dans une conférence publique. Il indique que les richesses des gens ne doivent pas être étalées au grand jour.
Certains gens le comprennent mal. Ce n'est pas un procès. Chaque personne a des biens, même un nouveau-né, son capital, sont ses parents. Par après, on peut même s'acheter des remorques. D'ailleurs, nous avons constaté que c'est difficile car le début n'est jamais facile. Si on se lance dans cette gymnastique, il y a risque de passer toute une semaine sans terminer. La richesse de chacun doit être secrète, mais après notre mandat, on pourra le juger.
Pacifique Ninaze, un des défenseurs des droits de l'homme burundais, trouve plutôt ce discours du président insensé. Pour lui, Evariste Ndayishimiye n'est pas un bon dirigeant.
Et c'est dommage aujourd'hui que nous avons appris qu'Evariste Ndayishimiye s'est renié et revenu sur ses propres propos en disant qu'il était difficile pour les hautes autorités de déclarer tous leurs biens. C'est la loi qui exige cela. Donc, en déclarant que les autorités n'allaient pas déclarer leurs biens, Evariste Ndayishimiye, en réalité, déclare qu'il va piétiner la loi et qu'il va la piétiner ouvertement. Et en deuxième lieu, il y a lieu de se poser une question. Si Evariste Ndayishimiye avait donné une parole d'honneur de cette manière-là, aujourd'hui, on peut se dire, mais quand va-t-on croire les paroles d'Evariste Ndayishimiye? C'est-à-dire qu'on ne pourra plus le croire. À moins d'un mois, cela signifie qu'il y a une autre autorité plus forte qu'elle. Evariste Ndayishimiye n'est pas le véritable patron.
Rappelons que ce n'est pas pour la première fois qu'un président burundais fait de telles déclarations. Nkurunziza a fait de même, mais rien n'a été concrétisé.
Et parlons éducation à présent. Les syndicats des enseignants regroupés au sein de l'organisation COSESONA ont animé une conférence de presse ce jeudi pour exprimer leurs préoccupations par rapport aux questions qui gangrènent le secteur de l'enseignement. Le vice-président du COSESONA, Emmanuel Machandari, a précisé que les principaux défis sont entre autres la question du redéploiement des enseignants et la politique salariale. Il demande au ministre burundais et à l'éducation dans ses attributions de privilégier le dialogue. Écoutez-le.
Alors que les enseignants redéployés attendez un retour à leur école de départ, comme convenu une fois qu'il y ait une place disponible, de nouvelles recrues ont été engagées à leur place. Cela amène les enseignants redéployés à constater une injustice sans nom et à considérer ce mouvement du personnel, non pas comme une gestion rationnelle des ressources humaines, mais plutôt comme une sanction. En effet, les enseignants qui ont été redéployés étaient jugés de trop à leur poste d'attache initiale. Il est alors inconcevable qu'il y ait un recrutement d'un nouvel enseignant là où il y a eu un départ. Or, les parties engagées dans l'opération de redéploiement s'étaient convenues que chaque fois qu'il y ait une place disponible à l'école ou au service dont le personnel avait été redéployé, ces derniers devraient être priorisés pour occuper ces places. Le ministère de l'Éducation nationale et la recherche scientifique dans ses attributions, qui devraient prendre en premier lieu, prioriser un dialogue social avec les partenaires sociaux qui ont considérablement contribué à la réussite du redéploiement semble minimiser leur apport dans la recherche d'une solution durable. Les syndicats avaient accueilli avec satisfaction les efforts consentis et l'étape franchie par le gouvernement du Burundi dans la correction des disparités salariales. Cependant, les syndicats s'inquiètent de la lenteur qui s'observe ces derniers jours dans la concrétisation de la mise en place d'une politique salariale équitable dans l'administration publique burundaise.
Le syndicat Concessionnaire demande également à l'État burundais d'organiser dans les meilleurs délais un cadre d'échange pour une lecture et une compréhension commune des textes et lois qui régissent le monde du travail. Et dans le domaine de la santé, le 25 septembre de chaque année, c'est la journée internationale dédiée aux pharmaciens. À l'occasion de cette journée, Désiré Bizimana, président de l'Ordre national des pharmaciens au Burundi, a relevé les défis de ce domaine, notamment l'insuffisance des pharmaciens. Il invite le gouvernement burundais à instaurer le département de la pharmacie à l'Université du Burundi, comme ce fut le cas à une certaine époque. Et pour boucler cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, les quatre journalistes du groupe de pression Wachu sont incarcérés depuis 342 jours à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza et doivent purger une peine de 2 ans et demi et payer une amende d'1 000 francs burundais chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza alors qu'ils se rendaient en commune de Musigati couvrir les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles. Les quatre journalistes, Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Mozinzi et Egide Harimana, sont accusés de tentative d'attentat à la sûreté intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de la personne humaine et des professionnels des médias trouvent qu'ils sont emprisonnés injustement et ne cessent de demander qu'ils soient libérés sans condition. Et bien voilà, c'est la fin de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Inzamba Agathe Akawe. Merci bien de l'avoir suivi. Jean-Georges Kibogra vous l'a présenté avec la collaboration technique de Lambert Niozima. Au revoir.